et en particulier une crise régionale qui est particulière. Alors mon ami Meyer ne partagera certainement pas mon analyse, mais comme c'est pas lui qui a la parole, c'est moi, je dirai ce que je veux, puis il n'aura même pas l'occasion de répondre. Il pourra peut-être poser une question en passant, mais ce sera tout. Bon, enfin bref, j'essaierai d'y répondre. Et donc, quand j'ai parlé des crises, d'abord je me suis dit, des crises, d'abord, il y a une chose qui est toujours un petit peu regrettable quand on approche les crises, c'est qu'on n'a pas la patience de voir l'évolution. On veut voir les chiffres au jour le jour, de mois en mois, de semaine en semaine, ce qui fait qu'on a l'impression d'une crise permanente, alors que si on avait un peu de recul, on pourrait voir l'évolution des choses d'une manière un peu plus sereine. Et il y a aussi cette manie que les gens ont de choisir des statistiques que généralement ne comprennent pas ou qu'on leur explique mal. D'ailleurs, vous connaissez ce fameux mot d'un premier ministre britannique qui a deux siècles en quelque sorte, et qui s'appelait Disraeli, et il disait, écoutez, moi vous savez, il y a le mensonge, le sacré mensonge et la statistique. Alors, statistique, c'est toujours la façon qu'on a de la prendre, c'est toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est selon donc qu'il faut aborder ce problème avec beaucoup de prudence. Alors, finalement, l'évolution de la crise, d'abord, il y a une chose que je voudrais, sur laquelle je voudrais insister, c'est que l'agence a connu depuis toujours des crises plus ou moins vives, plus ou moins violentes, et ce n'est pas la première, et ce sera sans doute pas la dernière. Donc, je crois que c'est quelque chose qui permet de relativiser un peu l'espèce d'anxiété qui a gagné tout le monde à travers cette crise. Et je dirais simplement, pour la première fois, l'Alsace a quand même un certain nombre d'atouts qu'elle n'a jamais connu avant, et qui font que, j'espère, je souhaite, qu'elle puisse s'en sortir le mieux possible de la crise, des crises qu'elle a connues. Les crises, au fil des dernières années, d'ailleurs, je ne voudrais pas parler de privilégiés, mais meilleur les connaît bien, un certain nombre de crises, notamment de l'emploi, de crises économiques et financières, qui ont lieu tout au long des années d'après-guerre. Il y a bien sûr, on pense toujours aux 30 glorieuses, mais on ne sait pas qu'avant les 30 glorieuses, il y avait un certain nombre de crises, il y avait une évolution, mais comme le plus dépassait largement le moins, on ne retenait que les plus. Et aujourd'hui, on ne retient hélas que les moins. Tout à l'heure, vous parliez d'entreprises qui se développent. Je suis sûr que vous connaissez la liste des entreprises qui ont libéré du personnel, une formule libérer du personnel, licencié ou envoyé à la retraite, mais vous ne connaissez pas celles qui ont réussi à se sauver. Et pourtant, dans la liste des entreprises, il y en a un certain nombre que vous devriez connaître. J'ai eu la curiosité dans les dernières semaines de noter un petit peu les entreprises dont on dit du bien. Alors, tout d'abord, il y a une entreprise dont on a eu beaucoup de mal, c'est General Motors, qui a réussi finalement à se sortir du bain, mais je reviendrai dessus, et je vous dirai pourquoi. Il y a Sony, dont on a dit beaucoup de mal, et qui finalement réussira à s'en sortir, il y a la salle, c'est-à-dire cuisine est là, cuisine suite, etc. Il y a Siemens, il y a Kuhn, il y a Osram, il y a Kraft Foods, il y a Liper, un certain nombre d'entreprises qui ont toutes connu à un moment donné des difficultés, mais qui ont réussi, au nom de ce que j'appellerais moi une certaine forme de patriotisme économique, qui n'est pas fatalement une notion négative, ont réussi à se tirer d'affaire. Donc il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif. Et dans l'approche des dernières années, on oublie un peu quelques crises majeures. J'en esquisserai que deux, trois, pour ne pas attirer trop longtemps votre attention là-dessus. Il y a eu la grande crise des années 50, dont certainement vous vous en souviendrez, la fermeture des mines de Pêcherbonne, puisque c'était des mines de pétrole, qui n'avait rien à voir avec les geysers qu'on a maintenant au Texas ou au proche au Moyen-Orient, et la fermeture de Pêcherbonne qui a mis sur le carreau 3000 personnes du jour au lendemain. Il y a eu des crises répétitives du textile. Un petit chiffre, en 1966, le textile occupait 65 000 personnes. Aujourd'hui, il en occupe moins de 5 000. Ça vous donne une petite idée de la crise qu'il y a eu. Aujourd'hui, les entreprises qui restent sont des entreprises très pointues qui font des tissus spéciaux, depuis le feutre jusqu'à des fils et bois synthétiques particulièrement développés qui servent notamment au filtrage et aux filtres dans les véhicules et dans les filtres dans les maisons. Donc il y a eu cette crise-là, il y a eu la crise de la chaussure, que vous connaissez tous, de la bague, etc. Il y a eu toutes ces crises qui se sont succédées, et succédé Jean Menasse. Il y a eu la crise de la potasse dans les années 66, où il y a eu cette immense manifestation à Mulhouse qui a réuni tous les syndicats, les hommes politiques. Je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas fait de telles manifestations depuis. Pourtant, on aurait eu l'occasion à l'occasion des dernières élections régionales, où il y a eu une grande manifestation sur la place de l'Europe à Mulhouse qui a mis ensemble tous les responsables syndicaux, politiques, économiques pour élaborer ce qu'on appelle, pour préparer ce qu'on appelle la table ronde de la potasse, qui a préparé la reconversion du bassin potassique qui aujourd'hui est manifeste. C'est ce qui a permis des mines de potasse d'être relayées par des entreprises comme par exemple Peugeot, qui a connu aussi quelques difficultés et qui en connaîtra d'autres, mais qui aujourd'hui a retrouvé un certain dynamisme. Donc les crises sont courantes, elles sont malheureusement répétitives, et vous avez tous suivi les crises dans les journaux. Et la particularité de cette crise d'aujourd'hui, il y a eu un premier avertissement en 2000, il y a eu une première crise, puis ensuite la crise financière qui est arrivée 5-6 ans après et qui s'est imposée à nous. Et cette crise-là a une particularité. Là, la particularité d'abord, il y a la crise mondiale que chacun connaît, l'histoire des subprimes, je ne vais pas m'étendre là-dessus, tout le monde en a parlé. La crise financière est déclenchée par la situation, notamment de l'immobilier, des prêts à l'immobilier aux États-Unis. Mais il y a eu, à côté de cette crise qui a affecté les finances mondiales, une crise locale, ou une crise régionale, si vous voulez. Une crise régionale qui a été généré pour une large part par un certain nombre d'éléments qui se sont conjugués pour accentuer la crise. D'abord, le premier élément, qui peut être paradoxal, c'est que la fin de la guerre, la fin du conflit avec l'Allemagne, qui est éternelle, a fait que la paix s'est installée sur le Rhin, c'est une banalité de dire. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que les conséquences, c'est que pour la première fois, la démographie de la région s'est développée de manière positive. Avant, permettez-moi d'utiliser un terme brutal, avant les guerres, en quelque sorte, équilibraient. Il y a des gens qui partaient, il y a des gens qui venaient, on changeait souvent de nationalité, hélas, mais ça veut dire que chaque fois qu'on changeait de nationalité, les gens d'une nationalité étaient expulsés, hélas, pas seulement pour la nationalité, vous le savez mieux que moi, il y en a d'autres qui étaient expulsés parce que, fait de collaboration ou autre, et ils faisaient de la place pour d'autres qui arrivaient. Ce qui fait qu'il y avait un brassage de population, mais l'un dans l'autre, lorsque on prend la population que nous avions en 1946, par exemple, nous avions 100 000 personnes de moins qu'en 1936. 100 000 personnes de moins qu'en 1936. Ce qui est considérable. Hein, c'est-à-dire que la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qui s'en est suivi a provoqué la disparition, non pas, peut-être pas physique, mais le départ aussi forcé, où beaucoup de gens qui sont allés dans le sud-ouest ne sont pas revenus parce qu'ils ont dit « je ne vais pas revenir en Alsace, il y a la guerre tous les 15 ans ou tous les 30 ans, et je n'ai pas envie de connaître ça, je m'installe à Royan, à Bordeaux, dans le sud-ouest, dans le midi, à Montpellier, etc. » Vous en avez connu beaucoup, et nous en connaissons tous qui ne sont pas revenus. Donc l'Alsace a perdu 100 000 personnes. Pour la première fois, du fait de la paix, l'Alsace a vu sa population augmenter. Plus d'un million de 800 000 personnes, donc la population s'est augmentée considérablement entre, disons, la fin de la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui. Donc, le phénomène de l'augmentation de la population, ça a eu un double phénomène. Le premier, c'est un phénomène démographique pur, c'est-à-dire qu'au niveau des naissances, au niveau de l'augmentation de la population, il y a une évolution qui s'est faite. Et ensuite, l'immigration. Je reviendrai dessus tout à l'heure, parce que contrairement à ce qu'on croit, l'immigration aujourd'hui est en recul et non plus en progrès. On s'imagine toujours, quand on parle de l'électorat des Nantes, qu'à nos portes attendent des milliers de gens qui veulent déferler sur nos biens et se les approprier plus ou moins légitimement, plutôt illégitimement, c'est du moins ce que beaucoup de gens prétendent ou au pouvoir espèrent pour provoquer des réactions. Vous voyez qui je veux dire. Et non, pas du tout, nous avons 10 000 immigrants de moins en 5 ans nous avons perdu, nous avons 10 000. C'est d'ailleurs un phénomène qui est à peu près constant. Et malheureusement, il n'est pas du tout perçu en Europe. Vous prenez l'Allemagne, et l'Allemagne a moins d'immigrants que jadis. Et même plus. Il y a plus de gens qui quittent l'Allemagne qu'il y en a qui arrivent. Et pourtant, il y a un phénomène anti-immigré en Allemagne. Il y a là des fantasmes qu'on ne s'explique pas bien. Aussi, on se les explique trop bien, hélas. Mais il y a là des fantasmes qui conjuguent, qui dénie en quelque sorte une réalité qui pourtant apparaît, tant pis pour Israël, dans les statistiques. Donc, si vous voulez, l'évolution démographique et l'immigration a fait que la population alsacienne a augmenté. Avec une conséquence évidente, c'est que quand vous avez une population qui augmente, vous avez fatalement des demandes d'emploi. Arrive la crise, bon. Et avec une autre population qui augmente et des emplois qui diminuent relativement, on y reviendra, il y a fatalement quelque chose qui s'est coincé. Alors, l'un des avantages de cette évolution démographique, c'est que l'Alsace, contrairement à ce que parfois vous pensez, ou contrairement à ce que nous croyons, parce que nous nous appuyons sur nos âges, c'est que l'Alsace est une région jeune. Il n'est pas inutile de noter que 31% des Alsaciens ont moins de 25 ans. Vous vous rendez compte, les grands-mères, vos petits-enfants qui viennent derrière, c'est fantastique. Il y a même 31% ont même moins de 25 ans. 50% des Alsaciens, nous ne sommes pas dans cette tranche d'âge, hélas, ont entre 25 et 59 ans. 50%. C'est-à-dire que nous avons une région jeune. Aussi, c'est quelque chose qui a évidemment pesé sur l'emploi. C'est-à-dire que nous avons plus de gens qui demandent de l'emploi qu'il y a 30 ou 40 ans. C'est quelque chose qui, faut noter, même si, comme l'ensemble des régions, nous vieillissons progressivement, puisque nous savons très bien à peu près que si l'âge moyen des Alsaciens est de 38 ans actuellement, il sera de 42,3 ans en 2030. C'est-à-dire qu'il y a un vieillissement progressif, ce qui posera d'ailleurs un certain nombre de problèmes, notamment la mise à la retraite, puisque on peut recenser, par exemple, que d'ici à 2020, plus de 200 000 personnes partiront à la retraite. 40% des chefs d'entreprise partiront à la retraite d'ici à 2020 parce qu'ils ont plus de 50 ans. Donc, vous voyez que d'un côté, il y a une augmentation de la population qui demande plus d'emplois, et de l'autre côté, il y a à terme un vieillissement qui demandera soit l'arrivée de jeunes, par le droit naturel, ça, pour faire des enfants, mais ça ne se fait pas aussi, si ça se fait facilement, mais pas souvent, parce qu'il y a de plus en plus, on sait à travers la crise, on hésite d'avoir des enfants parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir la réserve, et il y a de l'autre côté l'immigration. Il y a quelque chose qu'il faut intégrer dans sa tête, il nous faut de l'immigration, qu'on le veuille ou pas, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, qu'on évoque le problème des banlieues qui ne se résolveront pas à travers des mesures simplement punitives ou policières, mais qui doivent se réserver par des investissements lourds, financiers, qui sont indispensables, parce que demain, ce sont ces immigrés-là qui travailleront pour nos retraites. Il faut bien que les choses soient claires. Je vais finir par rejoindre la Ligue communiste révolutionnaire, ce qui avec les plus vraiment, enfin, c'est un ancien, c'est un parrain de la Ligue communiste. Donc c'est pareil. Hein. Simplement pour relativiser que peut-être que disent certains à l'extrême gauche n'ont pas toujours tort, même s'ils se posent eux aussi les bonnes questions, mais on n'a pas toujours les bonnes réponses, il serait peut-être important qu'on les trouve. Bon. Cela étant, ce côté démographique explique une partie de la crise, il y a un effet de ciseau entre les emplois et les demandeurs d'emploi. Donc il y a eu cet phénomène qui se résorbera et qui est en train de se résorber, comme nous le verrons. Donc il y a ce phénomène démographique qui est intéressant et qui s'accompagne de quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'image de ce qui se passe dans la plupart des pays développés, les Alsaciens sont en majorité des Alsaciens. Mesdames, d'ailleurs vous en êtes exemple, les dames sont majoritaires dans la population de cette région. Il y a plus de 51% de femmes, ce qui a un certain nombre de conséquences au niveau de l'emploi. D'abord, il y a une chose qu'il faut noter, qui n'est pas inintéressante, c'est que si plus de 51% des Alsaciens sont des Alsaciens, comme je dis souvent avec un sourire, il faut dire que près de 67% des femmes ont un travail salarié. Ce qui est presque de 7 points supérieur à la moyenne nationale. C'est-à-dire que, contrairement à ce que nous croyons, Les Alsaciens travaillent plus, pas en quantité, mais en poste de travail, en quantité sûrement aussi, mais en poste bien sûr, en poste de course, comme dirait Sherlock Holmes et Dr. Watson. Donc, de toute façon, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir que contrairement à ce que nous croyons, la théorie de la femme au foyer en Alsace est finie, elle est terminée, hein, pour une large part. Plus de 67% des femmes travaillent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette évolution, il y a une conséquence, c'est que l'écart de salaire, en moyenne, bien sûr, ce sont les moyens, entre hommes et femmes, se résorbe au fur et à mesure de la jeunesse des femmes qui travaillent. L'écart entre hommes et femmes est réduit, par exemple, pour des femmes de moins de 39 ans. Pour les femmes de plus de 50 ans, il est de 20%. Je vais vous dire, et pourquoi? Parce que les femmes sont plus qualifiées qu'elles étaient dans le temps, et que surtout, elles ont une formation beaucoup plus élaborée. Un exemple, par exemple, et puis j'arrêterai les statistiques, parce que vous allez soit vous endormir, soit vous devez partir, ce qui ne serait l'intérêt de personne, et surtout pas de votre président, qui serait désespéré. Et un chiffre, à 29 ans, c'est une moyenne toujours, il faut dire, ça n'exclut pas des écarts. Hein. Mais à 29 ans, si vous prenez une femme de 29 ans, une femme de 29 ans, 19% des femmes de 29 ans ont le bac. Alors messieurs, il n'y a que 15% des hommes qui ont le bac. Hein. C'est-à-dire que les femmes sont plus qualifiées. Globalement, bien sûr, il faut toujours être prudent dans ce genre de chiffres que les hommes, et ce qui explique que la résorption progressive, si vous voulez, des disparités qui existent toujours, bien sûr, entre hommes et femmes. D'ailleurs, si vous prenez la liste, vous prenez le chômage, vous verrez que là-dedans, c'est l'une des régions où l'écart de chômage entre hommes et femmes est le moins développé. Cela est dû au développement de la qualification, etc. Donc il y a un certain nombre de problèmes d'emploi qui sont spécifiques à la région, qui sont spécifiques à son développement, et il y a un certain nombre d'autres éléments qui caractérisent la situation de cette région. La population, je vous dis, la jeunesse, c'est quelque chose d'important. Il y a d'autres éléments qui font que la crise, quelque part, a annoncé un certain nombre de solutions qui mettront du temps à agir. C'est également une chose. Une spécificité qu'on intègre plus assez, qu'on croit un peu dépasser, c'est ce qu'on appelle le droit local. Le droit local a un énorme avantage. Bien sûr, il permet, par exemple, qu'une entreprise artisanale puisse employer jusqu'à 1000 salariés, ce qui n'existe pas dans ce qu'on appelle la vieille France, qui n'est pas fatalement la France vieille, hein, que les choses soient claires. Maintenant, en vieille France, et bien heureux, comme on dit, quoi. Il y a cet écart, si vous voulez, l'entreprise artisanale ne peut pas occuper autant de salariés comme Alsace. Mais la conséquence, c'est que d'une part, le nombre d'emplois créés par l'artisanat en Alsace est à peu près, et plus de la moitié des entreprises industrielles. Mais on va revenir sur la liste parce que ça, c'est important. Il y a un peu plus de 140 000 salariés dans l'artisanat et ça se développe constamment. Et l'Alsace, grâce à l'apprentissage, prépare un certain nombre d'emplois pour les jeunes. Et l'Alsace est la première région de France où l'apprentissage, c'est évident, c'est dû à la loi locale. Et pourquoi je parlais de la loi locale? Je parle de la loi locale, certes pour vous citer l'originalité de l'artisanat, mais surtout pour vous citer un point qui est très spécifique, c'est ce qu'on appelle l'économie solidaire et durable. L'économie solidaire et durable, c'est aussi bien les coopératives, les mutuelles, c'est le monde associatif. Alors là, nous avons une originalité fondamentale qui est porteuse d'avenir, c'est que l'économie solidaire et durable a créé 75 000 emplois. 75 000 salariés s'appuyant sur les spécificités du droit local travaillent dans l'économie solidaire et durable. Vous trouvez ça nulle part ailleurs, et c'est un secteur qui n'est pas délocalisable, qui ne s'expatriera pas, qui garantira les emplois ici, à condition, bien sûr, qu'on ne supprime pas systématiquement les aides qui sont prévues pour le monde associatif, qui a un intérêt économique évident. Et on n'y insiste pas assez là-dessus, parce que 75 000, c'est presque la moitié des emplois créés par l'artisanat. C'est vous dire l'importance de ce secteur d'activité. Chaque fois que vous donnerez quelque chose à une association, vous participerez à la création d'emplois. Pensez-y. Pensez-y parce que c'est important. D'autant plus que généralement le monde associatif, vous bénéficiez d'éductions fiscales si vous aidez des associations qui ne sont pas fatalement inintéressantes. Mais on ne voit pas ce côté création d'emplois pour dans le monde associatif. Puis à côté, il y a des coopératives, etc. 75 000 emplois. Donc c'est une spécificité régionale qui est une réponse à la crise et qui est une réponse positive à la crise. À côté de cet aspect, il y a ce qui a été un accélérateur de la crise et qui est un accélérateur régional, c'est la prééminence de l'industrie dans cette région. C'est un point qu'on oublie trop souvent. Je me souviens des discussions qui avaient lieu dans les années 2003-2004 où on rêvait dans cette région d'une économie régionale sans industrie. En disant plus vite on se débarrasse de l'industrie, mieux ça vaudra et moins on aura des difficultés sur le plan de l'emploi et du chômage. Erreur profonde. Parce que, il y a 2-3 ans, l'industrie représentait encore plus de 22% des emplois. 22% des emplois. Pour vous donner une idée, sur le même, quand l'Alsace occupait dans son industrie 22% des emplois, la France, la vieille France occupait un peu moins de 16%. Mais l'Allemagne occupait 31% des salariés. Et ceci explique cela. On ne fait pas d'économie sans industrie, contrairement à ce dont rêvaient certains dans les, il y a 7 ou 8 ans, alors que la première crise était en train de se profiler. Cette présence de l'industrie a évidemment eu un effet qui a accentué la crise dans cette région parce qu'au problème de financement qui était lié à la crise mondiale se sont posés des problèmes de restructuration, de modernisation des entreprises. Alors j'entends parfois dire à ce propos, ah oui, mais l'un des problèmes de la région, c'est que finalement il y a trop d'investissements étrangers. Il y a trop d'investissements étrangers, nous dépendons trop de l'étranger, et c'est scandaleux, etc. Et seulement quand vous regardez de près, qu'est-ce qui se passe depuis 10 ans avec les entreprises étrangères? Les entreprises étrangères, quand elles font des bénéfices, rapatrient des bénéfices dans leur maison mère, mais quand elles ont besoin de financement, il faut qu'elles trouvent leur financement sur place. C'est-à-dire que les maisons mères n'aident plus leurs filiales régionales. Ce qui veut dire que les filiales régionales sont obligées de se débrouiller, de trouver, d'innover, ce qui est positif, de trouver des financements pour l'investissement régional, ce qui est aussi positif. Ce qui fait que quand vous voyez dans la liste des entreprises que je vous citais tout à l'heure, il ne vous aura pas échappé que sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entreprises que je vous ai citées, il y a une entreprise régionale. Toutes les autres sont des entreprises étrangères. Et encore, je considère que la SAL est une entreprise régionale, même si l'origine de son capital est allemand. Dans les années 56, l'entreprise s'est installée ici en ayant quitté la SAR, et depuis elle s'est développée. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces entreprises étrangères ne se considèrent plus comme entreprise étrangère, mais comme entreprise régionale. Et l'exemple de General Motors est particulièrement significatif à cet égard. Alors que General Motors, qui s'était implanté dans la région, ce qu'on oublie aussi aujourd'hui, ce qu'on a oublié de dire à l'époque d'ailleurs, que comme une filiale de Opel, et non pas General Motors, General Motors, et on l'a appelé General Motors parce qu'on ne voulait pas dire au moment où elle s'est implantée qu'elle était une entreprise allemande. On aurait dû dire Opel-Schaffburg. Non, on a dit General Motors France. Bon, c'était mieux à l'époque. C'était l'époque où, vous vous en souvenez peut-être, en 1970 et quelques, il y avait une grande conférence du professeur Julliard, Étienne Julliard, que certains d'entre vous connaissent, qui s'intitulait « L'Alsace va-t-elle basculer dans l'orbite économique allemande ?» C'était une conférence où il y avait 500 ou 600 personnes, la salle était bourrée, qui était rue Kirchhoff, au siège de ce qui était à l'époque la chambre patronale des industries du Bas-Rhin. Et à vrai dire, quand on a dit l'Alsace va-t-elle basculer dans l'orbite économique allemande, on a mis économique en dernière minute, parce qu'à vrai dire, ce que tout le monde avait à l'esprit, c'était politique. Est-ce que l'Alsace va redevenir allemande? C'était ça un petit peu le sous-entendu de la question. Alors la vie économique, on s'est dit c'est plus neutre. Bon. Et finalement, aujourd'hui, une telle conférence serait impensable. On aurait dit, on ne se poserait même plus la question. D'ailleurs, tous les sondages montrent que ni en Allemagne ni en France je ne suis pas sûr, mais en Allemagne au moins, et ça c'est rassurant, on ne se pose plus cette question-là. Donc, il y a là quelque chose qui de positif. Donc, à l'époque, c'était l'époque donc, où General Motors s'est implanté, et donc à travers les efforts déployés par la région et pour l'encadrement régional de General Motors, on a réussi à sauver General Motors en forçant plus ou moins General Motors aux États-Unis de reprendre l'usine strasbourgeoise. Donc vous voyez que les entreprises étrangères sont non seulement plus parce qu'elles créent des emplois, mais elles sont aussi plus parce qu'elles participent à la régénération des structures industrielles de la région. C'est ce que moi j'appelais une régénération permanente et ce que j'appelle pour les entreprises étrangères l'émergence d'un patriotisme économique qui était surprenant et qu'on ne connaissait pas au départ. Donc l'investissement étranger peut être un avantage et d'ailleurs si globalement c'est quelque chose qui va vous surprendre, si nous prenons le pouvoir de décision qui s'exerce dans cette région, nous constatons que toute forme de pouvoir réunie, 70% des centres de décision qui influencent cette région se trouvent à l'extérieur de la région. Ce n'est pas seulement l'économie, c'est aussi la politique, l'administration, les structures régionales, politiques, etc. 70%, c'est dire que c'est quelque chose qu'on aurait considéré comme préoccupant il y a 30 ans, où on présentait l'Alsace comme étant une région particulièrement autonome, ayant des centres de décision propres, avec notamment un centre bancaire à Strasbourg, en arcade, lorsque tous les sièges sociaux des banques se trouvaient sur place. Aujourd'hui, les sièges sociaux des banques, on peut les chercher, même avec une loupe consistante, on n'en trouve pas beaucoup. À part les crédits mutuels, il n'y en a plus. Ce qui ne veut pas dire que les banques ne sont plus là. Mais ça montre aussi que même si les sièges sociaux ne sont pas sur place, on peut connaître un développement régional, pour peu que la clientèle régionale le mérite, le soupèse et le provoque. Donc, malgré les centres de décision qui rendent l'Alsace plus dépendante qu'elle était il y a 40 ans, l'Alsace a un certain nombre d'atouts, dont notamment, je vous disais, sa population jeune, sa démographie, son pouvoir d'achat. L'Alsace est le troisième pouvoir d'achat en France, après la région parisienne et Rhône-Alpes, troisième pouvoir d'achat, ce qui est loin d'être négligeable, au niveau du pouvoir d'achat régional, qui bien sûr n'est jamais suffisant, mais il existe, c'est une réalité. Et un autre élément, parmi des signes qui peuvent amorcer, disons, une manière de répondre à la crise, il y a bien sûr le développement d'un certain nombre de secteurs que nous connaissons. Je citais tout à l'heure l'économie solidaire et durable, je pourrais situer l'évolution de l'agriculture. L'agriculture, à l'heure actuelle, l'objectif c'est d'arriver à 15% de terres agricoles biologiques d'ici à 4 ou 5 ans. À l'heure actuelle c'est la moitié, mais on s'achemine très rapidement. L'agriculture étant l'un des secteurs qui a connu le plus fort la plus forte régression au niveau des effectifs. Vous vous souvenez tous, nous avons tous plus ou moins des origines rurales, nous venons tous plus ou moins de la campagne, et nous nous souvenons tous de cette période où l'agriculture, pas le rural, l'agriculture représentait, disons, une façon de se nourrir, de vivre, etc. C'était l'époque où, en 1964, peut-être que vous vous en souvenez, l'agriculture représentait ici presque 20% des emplois et des personnes. C'est-à-dire près de 20% des gens vivaient de l'agriculture. Aujourd'hui, ce pourcentage est tombé ici, dans la région, à moins de 3%. C'est-à-dire que c'est moins de 3% des gens vivent de l'agriculture, c'est c'est sous la barre nationale, ou qui est encore au-delà de 3%. Ce qui n'empêche pas que nous avons tous des racines rurales et que le poids politique des paysans, quoi qu'il ne représente plus grand-chose, est considérable. Il n'y a qu'à voir le succès du salon de l'agriculture où toutes les politiques se font photographier. Ils ne viennent pas pour les paysans, ils viennent pour les caméras. Mais enfin, bon, clairement, l'un retrouve de l'autre, et puis ça n'est pas fatalement négligeable. Mais quand on parle des élections et qu'on parle du vote paysan, c'est un vote qui, au fond, est un vote rural. Ce n'est plus le vote paysan, c'est le vote des gens qui chansons à la campagne. C'est-à-dire des gens d'amis qui sont allés chercher des soi-disant bon air à la campagne et qui voudraient bien que les clubs ne chantent plus, les clubs et que les églises arrêtent de faire fonctionner leurs cloches parce que bon sang, ils ont quitté la ville et ils veulent être tranquilles à la campagne. Ben oui, mais quand on va à la campagne, on s'adapte à un gouvernement de 100 000. C'est une remarque tout à fait marginale par rapport à mon propos, simplement pour vous dire que parmi les crises, il y a eu aussi la crise de l'agriculture qui a vu fondre les effectifs d'une manière considérable, je disais de 20 à moins de 3%, c'est évidemment considérable et ça pose des problèmes. Mais ça a aussi un avantage, c'est que la superficie moyenne des fermes s'est considérablement augmentée. À l'heure actuelle, progressivement, le nombre des paysans diminué, mais le nombre de paysans qui arrivent à vivre de leur terre a augmenté. Vous vous rappelez tous qu'à l'époque, dans les années 60, c'était le règne de l'ouvrier paysan. Il travaillait le matin à l'usine, l'après-midi, il travaillait au champ, il avait une ou deux vaches, il avait peut-être quelques chèvres, des moutons, peu importe, mais il arrivait à vivre en combinant les deux. L'ouvrier paysan est mort, il n'existe plus, de toute façon, il y en a peut-être encore quelques-uns, toujours de côté. Ils ont moyen des chiffres, il y en a peut-être encore quelques-uns, mais ils ne vivent plus de l'agriculture, c'est pas d'un poil, puis c'est parfois des urbains qui jouent à Marie-Antoinette à la ferme et qui essaient d'élever des animaux avec beaucoup de difficultés, mais en essayant quand même d'avoir un style de vie qui est le leur, qui est d'origine, qui est un style de vie rural. Donc les paysans diminuent, la ruralité a augmenté. Je crois que c'est important. D'ailleurs, ça a eu une conséquence, c'est que progressivement, les terres agricoles sont grignotées. L'Alsace perd chaque année entre 800 et 1000 hectares de terres agricoles. Il est clair que ça ne peut pas continuer, hein, que c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Alors c'est entre les lotissements, les travaux, les zones industrielles et commerciales, vous savez que ces belles zones commerciales qui se ressemblent toutes à travers la France, vous vous demandez parfois, vous avez l'impression d'être à Roubaix, maintenant on est à Chitic, à Roubaix, excusez-moi, je me suis trompé d'autre. Et donc il y a, si vous voulez, cet aspect des choses qui est important, c'est l'érosion, d'où conséquence, la nécessité de moderniser et de régénérer ce qu'on appelle des friches industrielles. L'Alsace c'est couvert de friches où il y a des usines vides. Il faudra bien, compte tenu de cette perte en nombre de hectares, de centaines de hectares, il faudra bien essayer de réutiliser les friches industrielles pour y mettre l'industrie ou le commerce pour les zones commerciales ou tertiaires. Il y a certaines zones qui ont réussi, il y en a une qui est connue. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est à Bessermann, ce qui est assez remarquable, ce qu'ils ont fait là-bas. Et ils vous ont reconverti une zone industrielle qui était essentiellement textile et qui est aujourd'hui à la fois tertiaire, il y a des musées, il y a des bureaux, il y a un artisan, il y a un peu tout. Ils ont régénéré cette friche industrielle. Donc nécessité de réutiliser les friches industrielles de façon à éviter que les terres agricoles deviennent de moins en moins, existent de moins en moins, elles sont de moins en moins disponibles. Donc l'évolution de l'agriculture, la crise de l'agriculture a eu, si vous voulez, cette conséquence, la réflexion sur le biologique, sur la rentabilité des fermes, sur la ruralité, c'est donc le transfert de population, entre guillemets, entre les villes et les grands pôles et la campagne, encore que là aussi, il est important de mettre un bémol, parce que compte tenu des problèmes de transport qu'il y a, aller donc voir aux portes de Strasbourg tôt le matin ou à partir de 4h l'après-midi aller sur ce que j'appelle le périphérique strasbourgeois et regarder la circulation de gens qui, il y a 20 ans, se sont installés à 15 ou 20 km de Strasbourg et qui aujourd'hui sont quasiment prisonniers d'un réseau routier qui n'a pas suivi et qui aujourd'hui se pose la question de savoir s'il ne faut pas revenir en ville, soit à Strasbourg, soit dans des villes en général, parce que ce phénomène se pose aussi entre Luxembourg et Avignon, etc., un peu partout, ce qui régénérera d'ailleurs les métropoles relais comme Avignon, Luxembourg, c'est-à-dire les villes à la campagne. Ils ont réussi, ce que souhaitait Alphonse Allais, non pas de mettre les usines à la campagne, mais au moins des villes à la campagne, ce qui au fond ne sera pas, peut-être pas déplorable pour tout le monde. Donc ce phénomène de retour vers les petites villes moyennes, qui est d'ailleurs dans intégré dans la réflexion du Conseil régional, qui de plus en plus, vous savez qu'à un moment donné, on parlait des pays, mais maintenant de plus en plus, on parle des métropoles secondaires, et on essaie de recréer ce qu'on appelle une armature de schéma urbain, pour essayer de mieux relier les villes entre elles, sans que l'environnement et le paysage en souffrent. J'ai parlé d'environnement et des paysages pour signaler, disons, l'ouverture particulière de cette région sur tout ce qui concerne l'écologie. C'est quelque chose qui existe depuis presque deux siècles, parce que les premières sociétés qui se sont préoccupées de l'environnement sont nées en 1880, par là, donc il y a très 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 longtemps, et c'est une tradition qui, même si elle ne s'exprime pas toujours politiquement, s'exprime au moins sur le plan de la conception. D'ailleurs, quand vous faites des sondages sur l'opinion des Alsaciens pour savoir ce à quoi ils tiennent le plus, vous constatez que se dessine au fil des sondages une espèce de nouvelle identité. Aujourd'hui, nous sommes... l'autre jour, j'étais au conseil régional où on nous interrogeait sur la création de la fameuse marque Alsace. Et bien sûr, il y a eu des débats éternels dans cette région sur l'identité alsacienne. Qu'est-ce que l'identité alsacienne? Où sommes-nous? Où allons-nous? D'où venons-nous? Bref, je crois que ça fait 20 siècles qu'on se pose des questions. Et même du temps où l'Alsace n'était même pas encore née, au moins sous son appellation. Et on a constaté que finalement, on était incapable de définir l'identité alsacienne aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a créé une réflexion sur la marque Alsace. Qu'est-ce qui réunit aujourd'hui les Alsaciens? Qu'est-ce qui fait l'Alsace aujourd'hui? Ça n'est plus le dialecte. 30% de nos compatriotes parlent, régionaux parlent le dialecte. 60% disent qu'ils le comprennent. Mais je ne voudrais pas vérifier de près si c'est vrai. Mais disons que ça n'est plus le dialecte, ça l'était à un moment donné, ça n'est plus les religions, puisque la fréquentation des églises, des synagogues, même des mosquées, on dit toujours « Ah, les musulmans !» Non, on s'est aperçu qu'au fur et à mesure que l'intégration se fait, les jeunes musulmans ne vont pas à la mosquée. D'autant plus que, contrairement à ce qu'on croit, si la prière est obligatoire en islam, la fréquentation des mosquées ne l'est pas. Ce qui est ce que la plupart des gens ignorent. C'est-à-dire que pour être un bon musulman, il faut que j'aille à la mosquée. On peut prier chez soi, 5 fois par jour. Ça fait partie des piliers du Coran. Bon, enfin bref, peut-être pas inutile de rappeler ici dans une synagogue ou dans à côté d'une synagogue. Si vous voulez, la fréquentation des cultes a diminué partout dans toutes les religions, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, le recrutement des officiers du culte aussi pose problème. Il y a de moins en moins de candidats, contrairement à ce qu'on croit. Et parfois, on cite l'exemple protestant, disant, mais regardez-le. Mais la régénération des officiers du culte s'est faite à travers une féminisation, ce qui est refusé par les autres cultes. 36% des pasteurs sont des pasteurs heureux avec un E, c'est-à-dire des femmes pasteurs. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut noter, parce que par rapport à d'autres cultes qui refusent cette féminisation, c'est quelque chose qui est une piste, qui en tout cas interpelle, et qui est très moderne, puisque ça correspond à finalement l'évolution démographique de la population. Il y a de plus en plus de femmes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça n'est pas la religion, ça n'est pas la fréquentation de la religion, ça n'est plus seul, ça n'est plus la femme au foyer, pour une large part. Donc il y a un problème de rupture, de fracture dans notre identité. Quelle est notre identité? Il faut la rebâtir sur un certain nombre de données nouvelles, et c'est pour ça que la réflexion qui est menée actuellement au niveau du Conseil régional est une... bonne idée, peut-être qu'on trouvera, je ne sais pas si on trouvera les bonnes réponses, mais quelles sont aujourd'hui quelques-unes de ces pistes? C'est d'abord, je disais tout à l'heure, les sondages nous apprennent que d'abord, les Alsaciens sont extrêmement sensibles à l'environnement, au paysage, Personne n'y croit, pourtant le paysage est quelque chose qu'ils ne savent pas toujours le définir, mais ils sont sensibles au paysage. Ils sont sensibles au maintien du droit local. Ils ne savent pas toujours pourquoi, mais ils y tiennent. Ils sont sensibles aussi à, comment dirais-je, à l'idéal européen. Ils ne veulent pas toujours l'européen, mal européen, mais ils sont sensibles à l'Europe. Ils sont sensibles à la proximité du voisin allemand. Ils ne l'aiment pas toujours, mais ils sont contents qu'il soit là. Bon. C'est comme ça le paradoxe des Lézés, le paradoxe alsacien, qui font partie de cette originalité, de ce qui demain sera peut-être une nouvelle identité, qui est partie, d'ailleurs vous discutez avec vos gens, demandez-leur qu'est-ce que c'est être alsacien, donc vous serez surpris de la réponse. Posez-leur la question, ça sera un bon test, quand vous les verrez, vos petits-enfants, dis donc pour toi, qu'est-ce que c'est d'être alsacien? Peut-être qu'ils vous répondront dans les 5 ou 6 pistes que j'ai données tout à l'heure, et qui ne sont pas tirées comme ça, mais qui sont issues d'un certain nombre de sondages. L'attachement à l'histoire aussi est une des caractéristiques de la région. On considère que l'histoire est importante. La culture, c'est quelque chose d'important. Nous sommes dans une région, la culture est importante. Et ce qui est important aussi pour l'avenir, c'est bien sûr notre proximité, notre situation dans l'Europe. Alors, au moment de la crise, on a évoqué ce problème de... et d'ailleurs, en ce moment, vous voyez les débats qu'il y a autour de la présence du Parlement européen dans cette région, enfin Strasbourg en particulier. Et on s'est posé la question, quel pourrait être le facteur qu'on pourrait représenter pour l'avenir de l'Europe. D'abord, une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est 2 000 emplois à Strasbourg. 2 000 emplois.